Véroa Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du vendredi 19 janvier 2018 en direct de Washington. Idrissa Sidoulia et Anne Albertson pour commencer les titres.
En Côte d'Ivoire, sentence au procès d'Abidjan contre l'ancien président Laurent Gbagbo et certains de ses ex-collaborateurs.
En République démocratique du Congo, mandat d'arrêt contre les organisateurs des marches pacifiques anti-Kabila.
Rencontre entre Nikki Haley et ses homologues africains à l'ONU après les propos insultants sur le continent prêtés au président américain Donald Trump.
Ici à Washington, vote serré attendu au Sénat après l'adoption hier d'une mesure de financement temporaire par la Chambre des représentants pour éviter la fermeture à minuit ce vendredi du gouvernement fédéral.
Et ne manquez pas notre page sport avec les derniers résultats du CHAN au Maroc ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
L'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et son dernier premier ministre Gilbert Akengbo, ainsi que deux de ses ex-ministres, ont été condamnés hier à 20 ans de prison pour des faits de braquage de l'Agence nationale de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCEAO, pendant la crise post-électorale ivoirienne. Des détails avec notre correspondante Narita Namasté.
20 ans de prison avec une amende de 329 milliards de francs CFA. C'est le verdict rendu par le juge Sombé Meïté jeudi au tribunal de première instance d'Abidjan pour l'ex-président Laurent Gbagbo et à Gilbert Akengbo, son ex-premier ministre, Kone Katina, son ministre du budget et Désiré Dalo, son ex-ministre de l'économie et des finances. Tous les trois accusés par le ministère public ivoirien pour vol en réunion par infraction portant sur des à la BCAO en vue d'obtenir des liquidités en pleine crise post-électorale de décembre 2010 à avril 2011. Aussi, c'est UC qui avait dressé les procès-verbaux de constat après ce braquage et écope de 36 mois de prison et de 700 000 francs d'amende. Les procès en assises autour de la meurtrière crise post-électorale en Côte d'Ivoire se poursuivent. L'ex-ministre de la Défense de Laurent Gbagbo, Lida Kwasi, et ses trois co-accusés ont été reconnus jeudi soir coupables de complot contre l'autorité de l'État et condamnés chacun à 15 ans de prison par la Cour d'assises d'Abidjan, un verdict jugé politique par la défense. Narita Namasté à Abidjan, VOA Afrique.
En Guinée, l'assassinat d'un prêcheur saoudien et la mort du président des chasseurs traditionnels qui a été poignardé dans l'est du pays suscitent un grand débat au sein de la communauté musulmane. Une enquête a été ouverte et les autorités locales ont procédé à des arrestations. Le point avec notre correspondant Zakaria Kamara.
Selon une source officielle, 5 personnes soupçonnées d'être liées à l'assassinat du prêcheur saoudien sont arrêtées. Une enquête est ouverte pour élucider les circonstances de la mort du prédicateur. L'homme était très connu dans les milieux musulmans pour ses prêches et sa participation à la construction des mosquées. Il a été tué mardi sur le chemin de retour dans le village de Kantedougou, Balandou, à Mandiana, dans l'est du pays, alors qu'il venait de terminer une activité de prêche. Après l'assassinat du missionnaire saoudien, une réunion d'urgence a réuni le lendemain les associations islamiques, l'autorité préfectorale de Mandiana et les chasseurs traditionnels. La démarche visait à réunir tous les éléments susceptibles de faire la lumière sur ce crime. Malheureusement, un autre crime sera commis juste après la rencontre. Le président des chasseurs traditionnels accusé d'avoir organisé une réunion secrète quelques heures avant l'assassinat du Saoudien a succombé à ses blessures après avoir été attaqué à coups de couteau par un jeune religieux. Dans la capitale, l'information est beaucoup commentée et ils sont nombreux des Guinéens qui attendent des réponses et les conclusions de l'enquête sur un crime commis dans un pays dont la population est majoritairement musulmane avec plus de 80% d'adeptes. Zakaria Kamara, Conakry, VOA Afrique.
Au Sénégal, de violents affrontements entre le groupement d'intervention mobile de la police nationale et des étudiants en grève ont abouti à un incendie au sein du campus social de l'université de Dakar. Notre correspondant sur place, Seydina Abagay, fait le point.
Depuis le début de l'année, les étudiants réclament les arriérés de leur bourse et l'accompagnement et le paiement d'indemnités pour les Master 2. comme l'indique Dieng Gom, président de l'amicale des écoles et instituts de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. N'ayant pas eu gain de cause, ces étudiants ont entamé une grève et ont pris d'assaut l'avenue Cheikh Anta Diop, l'une des plus importantes de Dakar. La dite avenue traverse la façade principale de l'université et passe devant le centre national hospitalier universitaire de Fann et le bâtiment abritant la cour de répression de l'enrichissement illicite. Pour contrer les étudiants et lever le blocus, les forces d'intervention de la police nationale ont usé de grenades lacrymogènes. Certaines grenades ont atterri dans un des bâtiments de logement des étudiants, le pavillon PM5, provoquant un incendie qui a réduit en cendres la chambre 28 du bâtiment. L'intervention rapide des sapeurs-pompiers a permis de circonscrire le feu. À la suite de cet incident, les affrontements ont redoublé de violence et la circulation a été coupée sur cet axe. Un étudiant a été arrêté et plusieurs blessés légers et quatre évanouissements ont été déplorés. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, un mandat d'arrêt a été émis contre les organisateurs de marches pacifiques qui demandent au président Kabila de quitter le pouvoir. Selon l'AFP, citant une source proche du parquet, des mandats d'amener ont été émis contre 5 des 8 responsables du comité laïque de coordination proche de l'épiscopat congolais et reconnu par le Vatican.
Au Burundi, un groupe parlementaire d'opposition dénonce l'arrestation de plus de 40 de ses militants. Le gouvernement leur reproche de battre campagne contre le référendum avant l'ouverture officielle de la campagne. Le point avec John Lyndon.
Selon Pierre-Célestin Dikoumana, président de ce groupe, 42 militants du mouvement Amizero Yabarundi ont été arrêtés arbitrairement et emprisonnés depuis le 12 décembre. Ils sont accusés de faire campagne pour le non. Ce mouvement regroupait au départ les ex-rebelles du FNL dirigé par Agathon Rwasa et l'ancien parti unique UPRONA de Charles Ndidije. Par la suite, M. Rwasa a été élu vice-président de l'Assemblée nationale. Le gouvernement a lancé le 12 décembre une campagne d'explication autour de la réforme constitutionnelle. La campagne officielle commence 2 semaines avant le référendum. Les Burundais doivent se prononcer sur un projet de révision de la Constitution qui permettrait au président Pierre Nkurunziza, au pouvoir depuis 2005, de briguer à partir de 2020 deux mandats de 7 ans. Ce référendum était initialement prévu en février. Il a été reporté au mois de mai.
La représentante permanente des États-Unis à l'ONU, Nikki Haley, a exprimé hier ses regrets auprès des ambassadeurs africains qui s'étaient dit outrés par les propos insultants prêtés à Donald Trump sur l'immigration. Selon l'ambassadeur de Guinée équatoriale, Monsieur Anatolio Ndongba, c'est à sa propre demande que Madame Haley a rencontré ses homologues africains qui avaient publié vendredi dernier un communiqué au langage très dur exigeant des excuses aux présidents américains pour ses propos racistes prononcés il y a une semaine lors d'une réunion, dit-on, à la Maison-Blanche.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici à Washington, les leaders républicains de la Chambre des représentants ont pu réunir assez de votes hier pour faire adopter une mesure de financement temporaire et tenter ainsi d'éviter une éventuelle fermeture des bureaux du gouvernement fédéral ce vendredi à minuit. Mais cette mesure va faire face à un vote serré à la Chambre haute où une majorité qualifiée de 60 des 100 sénateurs est requise. En échange de ces voix et outre le financement à long terme du CHIP, programme public d'assurance maladie pour les enfants pauvres, désormais engagé pour 6 ans, la minorité démocrate veut régler le sort des 690 000 Dreamers, jeunes arrivés clandestinement aux États-Unis quand ils étaient enfants. Le président Trump continue d'insister sur la construction de son mur.
Nous vous le disions hier, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens est confrontée à sa plus grave crise financière depuis sa création en 1949. Washington a annoncé mardi le gel de 65 millions de dollars sur les 125 millions de contributions volontaires. Le point avec Abdourahman Dia.
Ces coupes menacent les centaines d'écoles et d'hôpitaux de l'agence onusienne qui s'occupe de 5 millions de réfugiés palestiniens éparpillés en Jordanie, au Liban, dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. Il y a 59 camps de réfugiés, dont 19 en Cisjordanie. Au Liban, quelques 160 000 personnes ont pu se faire soigner en 2017 dans ces cliniques et 14 millions de dollars sont déboursés chaque année pour couvrir les frais d'hospitalisation des malades. L'agence onusienne se trouvait déjà dans une situation difficile. En 2015, elle a failli fermer ses établissements scolaires. Par exemple, à l'école de Burj Al Sheikh Ali au Liban, l'heure est grave. Son directeur, Jihal Al Hanafi, n'exclut pas dans les mois à venir de renvoyer la moitié des enseignants ou simplement de fermer l'école. Et pour lui, un enfant qui ne va pas à l'école et qui se retrouve dans la rue sera plus exposé à la drogue ou d'être recruté par un groupe terroriste.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Écho, Eric Manirakiza.
Un projet hydraulique suspendu au Kenya. C'est à la suite des évictions forcées de populations autochtones qui ont provoqué de violences meurtrières. L'Union européenne avait déjà averti Nairobi que l'usage de la force contre ces autochtones entraînerait l'arrêt immédiat du programme. Ce projet avait été lancé en 2016 pour 31 millions d'euros en vue de préserver les zones boisées sur les hautes terres de l'ouest du pays. Aux États-Unis, le fabricant de l'iPhone a réalisé des bénéfices nets annuels de plus de 48 milliards de dollars pour un chiffre d'affaires de 229 milliards. Apple est la première capitalisation boursière mondiale à plus de 910 milliards de dollars et a fini mercredi en hausse à Wall Street. Le groupe va distribuer 2500 dollars de bonus à ses salariés et compte contribuer 350 milliards de dollars dans les 5 prochaines années à l'économie américaine. La Banque centrale de l'Iran réclame près de 5 milliards de dollars plus les intérêts à Clearstream, filiale luxembourgeoise. Cet argent a été bloqué en raison de procédures visant Téhéran pour son rôle présumé dans plusieurs attentats terroristes. Les Iraniens exigent des dommages et intérêts en cas de refus de restitution de ce montant. Cependant, près de 2 milliards de dollars sont déjà transférés aux États-Unis pour indemniser un millier de parties civiles américaines en application d'un jugement américain rendu en 2013.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
La Côte d'Ivoire éliminée du CHAN 2018.
Battue d'entrée de jeu par la Namibie 1-0, les éléphants locaux n'ont pas su rester dans la course à la qualification hier à Marrakech face à la Zambie. Les Ivoiriens ont sombré 2-0. C'est Moulenga, le bourreau des Ivoiriens, auteur d'un doublé dans ce match. On se souvient qu'en 2009, la Zambie avec Hervé Renard avait déjà battu la Côte d'Ivoire lors du CHAN qui était organisé en Côte d'Ivoire, c'était évidemment au stade Félix Houphouët-Boigny. Résultat, la Zambie est qualifiée pour ses quarts de finale, tout comme la Namibie, vainqueur hier 1-0 de l'Ouganda, qui est éliminée du CHAN, comme les Ivoiriens.
La Guinée, elle n'a plus d'entraîneur.
La Pebangoura a été limogée hier pour résultat insuffisant par la FEGIFOOT, la Fédération guinéenne de football. Il paie les deux défaites du Sili National contre le Soudan et contre le Maroc avant-hier.
Le groupe C, ce vendredi.
Le Rwanda qui affronte la Guinée équatoriale et surtout la Libye qui pourrait se qualifier dans ce groupe C en cas de succès dans le choc du jour face au Nigeria. Les précisions au Maroc d'Amine Birouk pour VOA Afrique.
Les Chevaliers de la Méditerranée sont à 90 minutes d'une qualification pour les quarts de finale du CHAN 2018. Pour atteindre cet objectif, les tenants du titre en 2014 devront battre à Tanger une sélection nigérienne décevante lundi dernier devant le Rwanda. En effet, si les Libyens avaient disposé de la Guinée équatoriale 3-0, les Super Eagles s'étaient contentés d'un nul fat 0-0 devant de surprenants Rwandais. Ce résultat mifique Miraisin oblige les Poulains de Salisu Youssouf à sortir le grand jeu. Un sélectionneur qui s'est engagé à présenter une formation plus compétitive ce vendredi à Tanger devant une Libye qui a pour point fort une bonne défense et une grande discipline tactique. Depuis Casablanca au Maroc, Amine Birouk pour VO Afrique.
Cyclisme tropical à Missa Bongo.
Ah oui, grosse étape hier sur les routes gabonaises entre Njolé et Mitsik sur 182 km, un parcours vallonné. Quatre coureurs ont formé l'échappée victorieuse du jour et c'est le Rwandais Joseph Areruya qui l'emporte au sprint. Il prend du coup le maillot jaune au classement général. L'ex-maillot jaune Brendan Jones a terminé 7e de l'étape à 7 minutes 42.
Championnat de basket nord-américain.
Ah oui, un petit nouveau et deux capitaines attendus. Telle a été la conclusion du vote des fans, des médias et des joueurs pour le All-Star Game qui aura lieu le 18 février prochain au Staples Center de Los Angeles. Joel Embiid a donc décroché sa première sélection au All-Star Game à l'âge de 23 ans. Le pivot camerounais de Philadelphie est le premier joueur des Sixers titulaire du All-Star Game depuis Allen Iverson. C'était déjà en 2006. Allez, Idrissa, avec vous, quelques résultats de la nuit en NBA.
Philadelphie a battu Boston 89 à 80 Orlando a succombé à Cleveland 98-116. Houston a battu Minnesota 116-98.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sidoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le président du CICR, Comité international de la Croix-Rouge, Peter Moore, a effectué une visite de travail de 4 jours en Centrafrique, un pays déchiré par les conflits armés et confronté à une crise humanitaire très grave, notamment dans l'arrière-pays. Jean-Yves Clémenceau, le porte-parole du CICR pour l'Afrique, nous fait le point de cette visite au micro de Félix Yepassis Zimbro.
Après une année 2017 très très difficile, avec des déplacements de population les plus importants depuis le début de la récente crise qui a commencé en 2013, le premier mois de 2018 est aussi difficile. On voit qu'il y a eu des combats dans le nord-ouest, le sud-est, il y a de nouveaux déplacés. Donc que les perspectives sont plutôt négatives en République centrafricaine. Un cinquième de la population est déplacée, la moitié de la population a besoin d'aide humanitaire. Donc c'est un constat pessimiste.
Monsieur Mourer s'est rendu à l'intérieur du pays, notamment à Kakabandro et à Bambari, où il a rencontré des représentants des groupes armés. Quel message a-t-il apporté à cette occasion aux belligérants?
Alors ça fait partie du travail habituel du CICR, de rencontrer toutes les parties au conflit, de leur passer un message de respect du droit international humanitaire. C'est l'ensemble des règles qui servent à protéger les populations civiles lorsqu'il y a un conflit armé. Donc un message de protection qui a été passé. Et puis ce qui était intéressant, c'est qu'à Kagabandoro et Bandari, M. Moret a aussi rencontré des gens déplacés. Il s'est entretenu avec des personnes touchées par le conflit. Et malgré une situation, il a rencontré des gens qui essaient de se débrouiller, qui font preuve de résilience, qui essayent aussi, certains, de développer des petits projets. Donc, il y a quand même aussi un espoir dans cette période difficile.
Et il a aussi rencontré les autorités du pays. Quel message a-t-il apporté à ces dernières?
C'est le même message qu'avec les groupes armés. C'est un message de respect du droit international humanitaire. C'est un message d'engagement pour essayer de trouver des solutions en vue de parvenir à une résolution du conflit. Ce qu'on peut dire, c'est que l'humanitaire ne sera pas suffisant. Il faut un engagement beaucoup plus grand, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de la Centrafrique, pour trouver les solutions. Et M. Moret a passé aussi un message envers la communauté internationale pour ne pas oublier la Centrafrique.
La crise centrafricaine perdure. L'on voit que le personnel du CICR, de la Croix-Rouge, est souvent menacé. Bon, le CICR maintiendra toujours sa mission dans ces zones de conflit.
C'est un challenge perpétuel. L'an passé, le mouvement Croix-Rouge a perdu 13 personnes au cours de leur mission. C'est beaucoup, c'est trop, c'est pas acceptable. Il n'y a pas que les humanitaires qui ont des difficultés, il y a aussi des centres de santé qui sont attaqués, qui sont pillés. Donc on lance un appel au respect du personnel de la Croix-Rouge, de tous les humanitaires, parce qu'au final, ce sont les populations qui souffrent. On a perdu un collègue au mois de novembre. Et bien en général, on doit interrompre nos activités, peut-être même parfois les arrêter. C'est grave, ça touche au final les populations.
Jean-Yves Clémenceau, porte-parole de la Croix-Rouge internationale pour l'Afrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
En Côte d'Ivoire, les indemnités des députés pourraient bientôt être revues à la hausse, une information qui provoque des grincements de dents dans le pays. 500 000 francs CFA de plus sur ces indemnités, de quoi offusquer déjà de nombreux Ivoiriens. Reportage, Georges Ibrahim Tunkara.
Dans les couloirs de l'hémicycle ivoirien, si certains députés se refusent à tout commentaire sur la question, d'autres en revanche, sous le couvert de l'anonymat, confirment l'information qui circule depuis quelques jours dans la presse et sur les réseaux sociaux. Oui, nous avons négocié avec l'exécutif une revalorisation de nos indemnités en vue de pouvoir faire face aux nombreuses sollicitations des populations, dit un député que nous avons rencontré. La mesure n'est pour l'instant pas effective, mais elle choque déjà de nombreux Ivoiriens.
Ils connaissent les besoins de la population et ils sont en train de se suivre le doigt en augmentant leur salaire et ils regardent la population mourir.
Donc je ne vois pas l'utilité de cette hausse des indemnités là. Je ne vois pas l'utilité. En Côte d'Ivoire, les répartitions sont mal faites. C'est pourquoi nous souffrons tous.
Il faut qu'on tienne compte de la population elle-même. Puisque depuis un moment jusqu'à ce matin encore, on nous dit que le riz a augmenté. Vraiment qu'on pense à la population, sinon vraiment c'est une petite déception.
Bon, on ne pense pas à la population, ils pensent à leur bien-être. Ça me déçoit un peu. Parce que la population, on ne mange pas à notre faim, tout est cher sur le marché. Et puis ils pensent à leur augmentation, pourtant ils ne pensent même pas à la population.
Certains activistes de la société civile se disent également choqués par cette requête des députés. Innocent Yelbin, président de l'Initiative ivoirienne pour la démocratie et le développement.
Le problème de la population de Côte d'Ivoire, c'est que la qualité de vie des populations a baissé. Le problème, c'est la question de l'emploi. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de visibilité en termes effectivement donc de santé, d'éducation et du pain en Côte d'Ivoire. C'est cela le véritable problème. En tant que député, en tant que représentant de la nation, ce qu'on attend d'eux, c'est d'aider, n'est-ce pas, à l'adoption de lois qui puissent permettre de faire régresser donc le taux de pauvreté en Côte d'Ivoire, de faire régresser le chômage en Côte d'Ivoire. Voilà ce qu'on attend des députés de la nation. Mais on n'attend pas les députés de la nation qui disent que non, donnez-nous 500 000 francs pour que nous on aille aider les gens ici et là. Quand on sait que aider les gens de cette manière ne peut pas résoudre fondamentalement le problème. Le problème est mal posé.
Pour l'ancienne ministre et ancienne députée Danielle Boni-Claveri, le moment de cette augmentation est simplement mal choisi.
Vraiment, le moment est inopportun. Parce que au même moment où les députés se donnent un salaire ou une indemnité avec une augmentation de 500 000 francs, ce sont les mêmes qui ont voté l'annexe fiscale qui, elle, augmente la TVA sur un très grand nombre de produits, ce qui va avoir pour conséquence une flambée des prix, une hausse du coût de la vie et en même temps un climat social qui va se durcir.
Le Parlement ivoirien compte 255 députés. Si cette augmentation de 500 000 francs est entérinée, chaque parlementaire touchera un peu plus de 2 600 000 francs CFA par mois comme traitement salarial. Georges Ibrahim Tounkara, Abidjan, VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24 heures sur 24.
Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et le premier ministre éthiopien Haïlé Mariam Dessalegn ont insisté hier sur leur volonté d'éviter le conflit autour du dossier du barrage éthiopien sur le Nil. L'Égypte craint que la construction du barrage de la Renaissance sur le Nil bleu entraîne une réduction du débit du fleuve dont elle dépend à 99 à 90% pour son approvisionnement en eau. Quels sont les enjeux autour du Nil? Eh bien, Yacouba Ouédraogo a joint Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines.
Depuis des siècles, les eaux du Nil, ça c'est la vie d'Égypte. L'Égypte ne peut pas exister sans les eaux du Nil, parce que c'est un pays agricole, il n'y a pas beaucoup de pluie. S'il y a une possibilité qu'il y ait une grande perte d'eau à cause d'Éthiopie ou Soudan, c'est très grave. Donc il faut qu'ils parlent et qu'ils discutent les moyens d'éviter une crise.
Le chef de l'État égyptien a appelé à l'apaisement avec l'Éthiopie et le Soudan. Est-ce qu'il y avait des risques latents de conflit?
Oui, bien sûr, il y avait un risque de conflit. Je vois que le barrage que l'Éthiopie est en train de construire est très près de la frontière du Soudan. Donc, en cas de conflit, ce sera assez facile pour l'Égypte de faire des mauvaises choses contre ce barrage. Donc, c'est absolument essentiel qu'il y ait un accord sur le partage des eaux pour le bénéfice de tout le monde.
De quels moyens de pression disposent chaque partie, l'Égypte et l'Éthiopie? Le Soudan n'a pas pris part à ces dernières négociations.
Pour l'Éthiopie, c'est une chose faite. C'est-à-dire qu'ils sont en train de construire et rien ne va l'empêcher de construire. Donc, ils ont un grand atout là. Le Caire a des moyens militaires d'agir en cas de situation grave. Donc, il ne faut pas que l'Éthiopie dise ça ne nous regarde pas.
En mai 2017, le Caire, Khartoum et Addis Abeba ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur les conclusions d'un rapport de deux cabinets d'expertise. En décembre, le ministre des Affaires étrangères éthiopien s'est rendu à Addis Abeba, échec de nouveau. La rencontre de ce jeudi n'a aussi rien donné de concret. Qu'est-ce qui a chopé véritablement dans les négociations entre ces différents pays-là?
Je ne suis pas au courant des détails sur la technologie, sur l'environnement, etc., mais je crois qu'ils doivent demander l'aide des pays neutres, des États-Unis, les les pays européens, pour les Nations Unies, pour envoyer des experts neutres pour expliquer tout ça, pour faire des études. Je suis sûr que le financement est disponible.
Est-ce que vous pensez qu'il y ait une solution définitive à cette question-là?
Oh, certainement. D'ailleurs, je dois attirer l'attention à un ancien projet qui a été interrompu dans le sud-soudan. Ça, c'est le projet du canal de Jonglai. Ça, c'est le Nil Blanc. C'était un projet pour faire un canal pour détourner le Nil Blanc en dehors d'un grand marécage. Et s'il termine ce canal, ça peut ajouter beaucoup d'eau qui va vers l'Égypte. Vous savez, l'eau qui vient d'Éthiopie, c'est le Nil Bleu. Donc, j'espère que la Banque mondiale et les bailleurs de fonds vont peut-être réouvrir ce projet qui s'appelle Jonglai Canal.
Ça pourrait être une solution définitive à cette épineuse question?
À mon avis, oui, mais il y a beaucoup de problèmes là-dessus aussi. La stabilité du Sud-Soudan, mais je suis sûr qu'ils vont trouver des solutions là-bas aussi.
C'était Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Les habitants du Cap devront réduire de 40% leur consommation d'eau à partir du 1er février, a annoncé hier la maire de la deuxième ville d'Afrique du Sud. Une mesure drastique face à la pire sécheresse qu'a connue la ville depuis un siècle. Le point avec Salwa Jawari.
C'est sur un ton résolu que la maire de Cape Town, Patricia de Lille, a annoncé les nouvelles mesures lors d'une conférence de presse. À ce stade, nous devons supposer qu'ils ne changeront pas leur comportement. Les chances d'atteindre le jour zéro le 21 avril sont très vraisemblables. Nous ne pouvons plus demander aux gens d'arrêter de gaspiller l'eau. Nous devons les forcer à arrêter de gaspiller l'eau.
Si ces restrictions ne sont pas respectées et si la région n'enregistre pas de précipitations conséquentes, l'eau ne coulera plus au robinet à compter du 21 avril et la population sera contrainte de faire la queue à des points de distribution d'eau. À partir de février, les habitants devront donc limiter à 50 litres leur consommation quotidienne d'eau contre 87 actuellement. Pour les habitants de Cape Town, qui attirent plus de 2 millions de touristes par an, l'enjeu est de taille. Jeff Levy est propriétaire d'un hôtel.
Il y avait d'autres pays dans le monde qui ont prouvé qu'il y avait d'autres moyens de faire face à la sécheresse. Ce qu'Israël a fait dans les deux ans en matière de désalinisation, l'Inde est aussi un pays qui s'en sort très bien.
Dans une station d'essai, les résidents remplissent leurs bouteilles d'eau. La pression est palpable.
Nous devons absolument faire notre part et utiliser le moins d'eau possible. Mais j'espère que le gouvernement fera quelque chose pour empêcher le jour zéro, car ce sera une crise nationale. Ce sera honnêtement horrible. Nous ne pouvons plus nous baigner, nous ne pouvons pas. Nous ne devons pas nous doucher. Et tous les deux jours, nous prenons une douche pour économiser de l'eau.
En moyenne, 15 litres d'eau sont consommés pour une douche d'une minute ou après avoir tiré la chasse d'eau. Le conseil municipal doit également approuver vendredi une augmentation des tarifs de l'eau pour les contrevenants. Depuis le début de 2016, la consommation d'eau du Cap a été réduite de presque la moitié, mais elle stagne désormais à environ 620 millions de litres par jour, soit 100 millions de litres au-dessus de l'objectif fixé par la municipalité. Toute l'Afrique australe a subi ces dernières années une très forte sécheresse aggravée par le phénomène météorologique cyclique El Niño. Mais de très fortes pluies ces derniers mois ont permis à l'essentiel de la région de refaire ses précieuses réserves d'eau.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Bonjour, c'est Nicolas Pinault. Tous les lundis soirs, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, rendez-vous en direct dans Sporama 19h, temps universel. Pour participer, c'est très simple, vous pouvez nous appeler en direct ou laisser vos commentaires et numéros de téléphone sur notre page Facebook. À très vite sur le terrain de VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi à la console d'Earl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.